vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi de nouveau dans l'épître de Paul aux Galates. Et nous allons terminer aujourd'hui le chapitre 3. Donc mon texte est à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Et j'ai intitulé ce message « Unis en Jésus-Christ ». Un en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul est en train d'écrire ici aux Galates, parce que il y avait des gens que, au fur et à mesure que le Seigneur faisait entrer des gentils, ce qu'on appelle des païens, dans l'assemblée, d'autres voulaient toujours faire une distinction entre juifs et grecs. Et ici, Paul écrit pour dire que non, que maintenant en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul peuple, un seul corps, c'est lui le temple. Et ceux qui sont membres de son temple sont ceux que Dieu, le Père lui-même, a élus avant la fondation du monde et que le Seigneur Jésus-Christ a racheté par son sang. Et que Dieu le Père a justifié lorsque Christ a achevé son œuvre à la croix. Donc, unis en Jésus-Christ. Tout d'abord, donc, dans les versets 23 à 25 de ce texte, nous voyons comment la loi de Moïse était un tuteur ou bien un gardien jusqu'à la venue de Jésus pour le écrit ici, « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Alors, il y a des termes qu'il nous faut comprendre ici, surtout en ce qui concerne ce mot, la foi. Il dit « avant que la foi vienne ». Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de croyants dans l'Ancien Testament, ou bien sous la loi. Mais ici, il utilise le terme « la foi » comme un synonyme de Christ. Donc, on peut lire cela tout le long de ce passage. Avant que Christ vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Et puis, à la fin du verset 24, afin que nous fussions justifiés, ce n'est pas par notre croyance, mais par la foi, c'est-à-dire Christ. Parce que Christ est l'objet de la foi. Et donc, il est question ici de ce que les élus étaient sous la dispensation de la loi, c'est-à-dire tout le temps du début de la création du monde jusqu'à ce que Christ soit venu dans le monde, avant que Christ ne soit envoyé par le Père dans ce monde. Nous, c'est-à-dire les élus de Dieu, Paul est en train de s'inclure parmi les élus de Dieu, quoiqu'il n'était pas lui-même né dans la période qu'on appelle l'Ancien Testament, mais il faut dire que jusqu'à ce que Christ ait accompli son œuvre à la croix, tous ceux qui vivaient étaient encore sous la loi, même au temps de Christ. Et comme nous allons voir, il n'est pas venu simplement pour suspendre la loi, mais pour l'accomplir. Donc, quand il dit « nous », il s'inclut là, parmi les élus de Dieu, « nous étions gardés sous la garde de la loi ». Ici, Paul utilise un mot différent et une idée différente de celle qu'il a écrite dans l'Écriture, qui a confiné tous sous le péché dans le verset précédent. Nous avons vu ça la dernière fois quand il dit dans le verset 22, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. Quand ça dit par la foi en Jésus-Christ, encore, ce n'est pas en train de parler de notre croyance en Christ, mais par la foi qui est compris en Jésus-Christ. Tout ce qui concerne la foi concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et pour voir la suite, à ceux qui croient. Ceux qui croient sont ceux en qui Dieu a révélé Christ, ou bien la foi. Mais ce mot renfermé sous le péché est différent de, dans le grec au moins, de ce que nous lisons ici dans le verset 23, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde. Ici, le mot est utilisé comme l'emprisonnement. L'idée derrière d'être sous la garde protectrice de quelqu'un. Nous étions donc en quelque sorte emprisonnés par notre propre péché sous la loi. Mais il y a aussi un autre sens ici où elle nous gardait en garde à vue. C'est comme si on prend quelqu'un et pour sa protection, on l'enferme et il est placé en garde à vue. Et cela, en ce qui concerne les élus, c'était leur état que Dieu, dans sa patience, a traité avec ceux de l'Ancien Testament qu'il a choisi jusqu'à ce que la foi vienne, c'est-à-dire l'objet de la foi, ou Christ, vienne et accomplisse la loi. J'espère que cela nous aide à mieux comprendre cela. Mais ça nous fait poser la question, alors, comment les élus de Dieu dans l'Ancien Testament étaient-ils gardés en garde à vue sous la loi? Tout comme une personne accusée et arrêtée et gardée en garde à vue jusqu'à ce que son cas soit jugé. Si vous voulez regarder avec moi dans Romains chapitre 3 et les versets 24 et 25, c'est là que nous voyons l'explication donnée par l'apôtre Paul, certainement sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 3 et le verset 24 nous dit: ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Qui? Ceux qui étaient nés dans le péché et qui étaient sous la condamnation de la loi sont maintenant gratuitement justifiés par sa grâce. Comment? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, en ce qui concerne les élus de Dieu, tout a changé. Au moment où Christ est venu et a donné sa vie, payé la dette pour réconcilier cela, le fait d'être élu ne signifiait pas qu'ils étaient alors nés déjà justifiés ou réconciliés. Non, il fallait que Christ vienne et qu'il les rachète à Dieu. Ils étaient choisis par Dieu avant la fondation du monde. Mais c'était pour être délivré et justifié par le sang versé du Christ. Et c'est verset 25 qui explique ce temps de patience de Dieu. C'est écrit dans le verset 25, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu le Père a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Il ne faut pas penser que c'est le fait de croire qui était alors leur propitiation devant Dieu. Non, c'est pour ceux qui croiraient, c'est-à-dire ceux que l'Esprit de Dieu devait et doit attirer à Christ. C'est pour cela qu'il a été fait victime propitiatoire. Maintenant, faites attention à la suite. Afin de montrer sa justice, il signifie maintenant, depuis la croix, montrer sa justice, parce qu'il avait, notons, laissé impunir les péchés commis auparavant. Ça, ce n'est pas en train de parler de tous les êtres auparavant, mais laisser les péchés commis auparavant de ceux qui lui appartenaient. Les Abraham, les David, les Isaac, les Joseph et autres, Isaïe, ceux de l'Ancien Testament qui appartenaient à Dieu par son élection. Mais c'est comme il avait laissé impunis leur péché, comme c'est écrit commis auparavant, ça parle de ceux de dans l'Ancien Testament. Notons, au temps de sa patience, pourquoi Dieu n'avait pas puni leur péché? Ce n'était pas qu'il ne méritait pas sa condamnation, mais Dieu avait déjà ordonné à ce que leur péché soit imputé à son fils lorsque son fils serait venu dans le monde et qu'il avait accompli la justice à leur égard. Et vous remarquerez, verset 25, ce temps sous la loi est appelé un temps de sa patience. Afin, dis-je, regardez verset 26, de montrer sa justice, comment? Dans le temps présent, c'est-à-dire depuis la croix, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ, celui en qui la foi est révélée, qui est en Jésus-Christ. Alors ça, c'est le sens que Paul ici est en train de donner, revenant dans Galates chapitre 3, dans ces versets 23 à 25. Ceux de l'Ancien Testament étaient gardés pour la foi qui serait révélée par la suite. C'est ça qu'il dit là, la foi étant venue, le verset 25. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue, c'est-à-dire sous la loi. La foi étant venue, encore, il y avait des croyants dans l'Ancien Testament, donc ça ne parle pas là d'une croyance, mais la foi étant venue, c'est-à-dire Christ étant venu. Et jusque-là, le verset 24 nous dit, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, ou bien, comme dans le grec le dit, jusqu'à Christ, jusqu'à ce que Christ soit venu. Cette loi était là comme un pédagogue, afin que nous fussions justifiés par la foi, ou bien encore par Christ. Donc, la loi de Moïse était en vigueur comme garde, jusqu'à ce que Christ soit révélé dans la chair. Et par conséquence, la loi qui était le tuteur jusqu'à ce que Christ soit venu, alors c'est afin que nous soyons justifiés par la foi ou bien par Christ. Je peux dire que le but de la loi de Moïse était triple. Premièrement, pour révéler l'absolue sainteté de Dieu. Ça, nous voyons lorsque nous retournons et nous lisons l'Ancien Testament, nous lisons ce que dit la loi. C'était donné pour révéler l'absolue sainteté de Dieu. Mais deuxièmement, nous pouvons dire que la loi a été révélée pour démontrer l'absolue dépravation de l'homme. Plus la loi brille, plus nous voyons le péché de l'homme. La loi n'a jamais été donnée comme moyen de salut. Ceux qui pensent cela se trompent. Non, ça a été donné pour révéler l'absolue sainteté de Dieu, et deuxièmement, révéler l'absolue dépravation de l'homme et l'incapacité de qui que ce soit à répondre à la sainteté et à la justice de Dieu. Tant que cette loi était en vigueur, même pour les élus, il n'y avait pas d'espérance de salut. Mais voilà le troisième but de la loi, c'était surtout pour révéler la personne du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous pouvons retourner dans l'Ancien Testament et tous les passages de l'Ancien Testament et voir dans chaque partie la révélation de Christ. L'homme ne pouvait pas l'accomplir, mais c'est pourquoi Christ est venu. Et la loi donc le révèle comme le seul, l'unique par qui les pécheurs pouvaient être et ont été justifiés devant Dieu. Notre Seigneur Jésus a donc déclaré qu'il était seul l'accomplissement de la loi et que les pécheurs devaient chercher en dehors de leur observance de la loi une justice différente que celle des scribes et des pharisiens. Revenons en arrière dans Matthieu chapitre 5 et vous allez voir là comment le Seigneur Jésus a souligné cette vérité. Matthieu chapitre 5, et on pouvait lire tout ce passage si on avait le temps du verset 17 jusqu'au verset 48. Mais je voudrais souligner surtout le verset 17 pour commencer. C'est écrit, Matthieu 5, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Les pharisiens, les scribes l'accusaient de cela parce qu'ils ne se soumettaient pas à leur règlement de la loi, leur interprétation de la loi. Mais il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour, non pour abolir, mais pour accomplir. Et c'est pourquoi il dit, là dans le verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. C'est une marque qu'on voit dans la langue hébreu pour distinguer un mot d'un autre ou bien un sens d'un autre, mais pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Jusqu'à ce que tout soit arrivé, il n'y avait aucune partie de la loi qui pouvait être minimisée ou bien mise de côté. Et il dit ça, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Ça parle de ceux qui disent aux gens, il faut faire votre mieux pour achever la loi, et même si vous ne pouvez pas le faire parfaitement, au moins Dieu peut vous récompenser pour l'effort. Ça, c'est de minimiser les plus petits commandements et laisser croire aux gens qu'ils pouvaient en fait obéir. Mais il dit, cela sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous ne minimisons pas la loi simplement parce que l'homme ne peut pas l'obéir. Nous devons déclarer la loi, la parole telle qu'elle, mais sachant que c'est pourquoi Christ est venu, et c'est pourquoi verset 20, et clé, car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quand il dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, les scribes et les pharisiens étaient très stricts en ce qui concerne la loi. Mais ce que Christ est en train de dire, c'est qu'il fallait une justice au-delà de l'effort de l'homme. Et de là, il parle de sa propre obéissance à la loi. Voilà ce qu'il nous faut. Ça, c'est la justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. C'est la justice que Christ lui-même a accomplie. Notre chère pécheresse s'efforcerait peut-être de nous faire prouver notre sainteté par la loi, ou bien, comme les gens le disent, par notre obéissance personnelle ou nos efforts à la loi. Mais Dieu avait pour but de nous prouver pécheurs. Les hommes s'efforcent à se prouver saints par leur obéissance, mais la loi a été donnée pour nous prouver pécheurs. Mais revenant dans mon texte, encore je voudrais revenir sur le verset 25. La foi étant venue, c'est après que la foi est venue. Et là encore, il faut comprendre après que Christ est venu. Nous ne sommes plus sous la tutelle de la loi. Une fois que Christ est venu et a accompli la loi, tous les élus de Dieu ont été retirés de sous la tutelle de la loi et placés en Christ. Même, je n'étais pas encore né, mais ma position à cause de l'œuvre de Christ était, maintenant, je n'étais plus sous la condamnation de la loi, mais j'étais placé en Christ. Lorsqu'il a pris chair, et sa postérité était chacun de ceux que le Père lui avait donné, c'est lorsqu'il a accompli la loi lui-même, pas seulement la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi, et par sa mort donc a justifié en un temps et un lieu, et par un sacrifice, son sacrifice. Alors, nous sommes en Christ depuis lors. Et ça, c'est vrai pour tous ceux qui croiraient dans les années à venir. Si leur dette a été payée déjà par Christ, ils sont nés dans ce monde déjà en lui, déjà justifiés par Dieu. Bien sûr, ils sont nés comme pécheurs et il faut, avec le temps, que l'Esprit révèle Christ en eux. Mais voilà la promesse, l'Esprit révélera Christ en chacun pour qui Christ a payé la dette. Cela doit nous réconforter, surtout lorsque nous prêchons. Nous ne savons pas qui sont les élus, pas, mais nous savons certainement que si quelqu'un est élu et que Christ est venu payer sa dette, donc il sera, elle sera effectivement attiré à Christ au moment voulu par Dieu. Nous regardons en arrière la loi par rapport à Dieu et à sa sainteté et à sa justice, mais nous n'y sommes plus ni pour le salut, ni comme règle de vie maintenant. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que bien sûr, nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais la loi est toujours là comme règle de vie. Non, nous sommes sous le Seigneur Jésus, qui est notre observateur de la loi. C'est lui qui l'a observé. Donc, nous sommes sous Christ, qui est notre vie et notre règle de vie. Ici, dans notre traduction, quand ça parle d'un pédagogue, il y a une explication là à donner aussi. Ce mot ne donne pas précisément l'idée dans la traduction comme dans le grec ancien. Le pédagogue ne se contentait pas d'enseigner à un enfant comme on imagine un enfant va à l'école. Et le maître l'enseigne, et puis là, il retourne maintenant à la maison. C'est comme il y a une partie de la vie de l'enfant qui est sous la tutelle du pédagogue, et puis l'autre partie, il est chez lui à la maison. Mais ici, l'idée de pédagogue, c'est que celui, la loi, était comme le gardien de l'enfant pour toujours. surveillant l'enfant et son comportement. L'idée est plus celle d'une nounou que celle d'un enseignant. Mais comme le tuteur pouvait discipliner l'enfant, le tuteur était aussi le doyen de la discipline. Ça, c'est dans la culture à l'époque, où souvent les parents mettaient les enfants sous la tutelle des gardiens. Le gardien n'était pas simplement un enseignant, mais c'était souvent un esclave dont la tâche spéciale était de veiller sur un enfant. Et il exerçait une supervision générale sur les activités de l'enfant. Et c'était sa responsabilité de le présenter à l'enseignant qui lui donnerait l'instruction qui convenait à sa condition. Donc tout cela est une manière d'expliquer ce que c'était d'être sous la tutelle de la loi. Mais lorsque, dans ces cultures, lorsque l'enfant a grandi, il ne se débarrasse pas de la discipline et des leçons qu'il a apprises du tuteur, mais il ne vit plus non plus sous la tutelle du tuteur. Alors, nous pouvons dire que c'était notre relation à la loi de Dieu. Nous apprenons d'elle. Nous pouvons retourner et lire dans l'Ancien Testament et comprendre comment la loi nous guide. Certainement, c'est la parole de Dieu. Et nous nous souvenons de ces leçons. Mais nous ne vivons pas sous la loi. Quand c'est écrit, nous sommes comme les enfants qui ont grandi, maturés maintenant, en Christ. Et donc, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la tutelle de Christ maintenant, si vous voulez. Maintenant, dans les versets 26 et 27, voyons un deuxième point important. Et tout cela, nous sommes en train d'aller vers la conclusion d'être unis en Christ. Et ici, dans les versets 26 et 27, nous voyons que c'est par la foi, c'est-à-dire par la révélation de Christ, que nous trouvons notre identité avec Jésus-Christ. C'est écrit dans le verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Nous ne sommes plus sous ce pédagogue mentionné dans le verset 25, parce que Christ étant venu, c'est lui qui est venu chercher pour lui les enfants de Dieu. Maintenant, en tant que médiateur devant le Père. Et donc, dans le verset 26, vous êtes donc tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Encore, quand c'est écrit par la foi en Jésus-Christ, c'est la foi qui est résumé entièrement en Jésus-Christ. Dans le texte grec, il y a cet article défini le, bien la foi. Ça, c'est important à souligner. C'est en connexion avec Christ, la révélation de Christ et son œuvre. Et comparé à ce qui était enseigné parmi les Galates, ça, c'est une déclaration révolutionnaire dans la pensée juive traditionnelle. Il y avait ceux qui pensaient que même avec la venue du Christ, que la vie chrétienne exigeait toujours une observance personnelle de la loi, et c'était souvent dit, comme dans la prédication aujourd'hui, que pour être vraiment proche de Dieu, il y en a qui disent, oui, Christ est mort, c'est vrai, mais, quand ils disent mais, ils sont en train de complètement annuler ce qui était dit jusque-là. Il n'y a pas de mais. Mais ils disent pour, c'est vrai, Christ est venu, point. C'est en lui qui est notre vie. Mais pour eux, ils enseignaient pour être vraiment proches de Dieu et pour être considérés comme fils de Dieu, il fallait continuer à observer la loi. Et il y en a même qui prêchent qu'un jour au jugement, chaque désobéissance, même si Christ est mort, sera maintenant puni. À quoi sert alors la mort de Christ si effectivement il y a une partie qu'il a accomplie et puis le reste dépend de nous? Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ici, Paul dit simplement, et j'aime la simplicité de l'Évangile, Paul dit que nous pouvons être considérés comme fils de Dieu d'une manière complète en lui, et cela par la foi. Là encore, ce n'est pas le fait que nous croyons à cela qui nous rend fils de Dieu. Non, nous croyons parce que nous étions déjà fils de Dieu, par l'élection de Dieu et par l'œuvre de Christ au salut. Et c'est l'Esprit qui vient maintenant révéler en ceux qui sont déjà fils de Dieu l'œuvre de Christ. Et c'est pourquoi il crie « Abba, Père », comme Paul le dit dans le livre de Romains. Ça, c'est vraiment une idée révolutionnaire pour la plupart de ceux qui se considèrent même aujourd'hui comme chrétiens. Parce que il y a ces doubles points qui sont souvent enseignés. Christ est mort, mais il fallait maintenant vous aussi obéir à la loi. Mais ici, ce que Paul décrit, premièrement, c'est une position impressionnante. Être parmi les fils de Dieu signifie que nous avons une relation spéciale avec Dieu en tant que Père, aimant et affectionné, déjà à notre égard inconditionnel, qui n'exige pas de nous d'abord une obéissance pour lui de manifester son amour. C'est un lieu ici d'affection, un lieu de soins et d'attention particulier d'être appelé enfant de Dieu. Le fait que nos enfants désobéissent, nous n'allons pas leur dire non, mais vous n'êtes plus alors mon enfant. Non. Nous avons en Christ cette position impressionnante parce que tout dépend de l'œuvre de Christ et non pas de nous. Mais aussi, non seulement la position, mais la méthode est impressionnante. Devenir fils de Dieu, comment? C'est écrit par la foi en Jésus-Christ, et là encore, par Christ. Vous pouvez remplacer le mot « foi » là par le mot « Christ », c'est-à-dire la foi qui est résumée ou révélée en Christ. Et cela signifie plus que croire qu'il existe ou simplement croire qu'il a accompli certaines choses à notre égard. Non, c'est l'avoir révélé en nous par son esprit et être vivant en lui et son œuvre accomplie. Voilà ce que c'est d'avoir la foi en Christ. Et Paul continue dans le verset 27. Vous tous, c'est ici que nous commençons à voir l'unité qui est en Christ, l'union qui est en Christ, être un en Christ. Vous tous, c'est écrit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Là encore, nous devons sonder ce mot baptisé en Christ. Il ne s'agit pas ici du baptême d'eau. Ce n'est pas dans l'eau que quelqu'un revêt Christ. Paul illustre ici ce que signifie avoir cette foi en Jésus-Christ. Il ne dit pas que nous avons été baptisés dans l'eau, mais baptisés en Christ, n'est-ce pas? C'est ça qui est écrit là, vous avez été baptisés en Christ. Alors, tout comme dans le baptême d'eau d'une personne qui est immergée dans l'eau, et ça c'est la signification de ce mot baptisé, immergé. Mais ici, il s'agit d'être immergé en Christ, c'est-à-dire son baptême, sa mort est appelée un baptême de feu, une immersion de feu. Et lorsque donc Christ est mort, ceux qui sont élus de Dieu étaient en même temps baptisés ou bien immergés dans sa mort. Ça, c'est clair dans Romains chapitre 6, si vous voulez. Regardez là, Romains chapitre 6. Je sais que souvent les gens traduisent ces versets dans le sens du baptême d'eau, mais si vous prêtez attention, vous allez voir qu'il ne s'agit pas de baptême d'eau, même ici, mais de la mort de Christ. Lisons dans Romains 6, verset 1. « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, notons, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment est-ce que ceux qui sont fils de Dieu sont morts au péché? C'est lorsque Christ est mort. Il est mort pour le péché. Et donc le péché n'a plus de réclame sur eux. Notons verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, ça ne dit pas dans l'eau, mais c'est le même terme ici, vous tous, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, quand est-ce que ceux qui sont fils de Dieu ont été baptisés en Jésus-Christ? » Nous allons voir, ça continue, c'est dans sa mort. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est clair, n'est-ce pas? Même chose ici quand Paul dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire dans sa mort, vous avez revêtu Christ. C'est là que la justice de Christ vous a été imputée. Et c'est votre vêtement. Ça continue. Nous avons donc été ensevelis avec lui, non seulement mort avec lui, dans sa mort, mais par le baptême en sa mort. C'est clair, ça ne dit pas baptême dans l'eau, mais baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La nouvelle vie dans laquelle nous marchons, c'est de ne plus être sous la loi. Et ses règlements et sa condamnation, mais en Christ qui est maintenant la vie. Donc il convient, revenant dans notre texte, dans Galates 3, de souligner que c'est le baptême qui nous sauve vraiment, mais c'est notre immersion en Jésus. Ce n'est pas le baptême dans l'eau qui sauve, mais c'est la mort de Christ. Si une personne n'a pas été baptisé en Christ, c'est-à-dire s'il n'est pas, une de celles pour qui Christ est mort, le baptême d'eau ne peut rien changer en cela. Quelqu'un pourrait être plongé 1000 fois dans l'eau, et cela ne ferait aucune différence éternelle. Si une personne a été baptisé en Christ, c'est-à-dire en sa mort, comme c'est écrit dans Matthieu 6, sa mort pour eux était leur baptême. Lorsqu'il est mort, ils étaient morts en lui. Lorsqu'il est ressuscité, c'est en lui qu'ils sont ressuscités. Alors, c'est ainsi que recevoir le baptême dans l'eau représente ce qui a été déjà accompli pour ceux qui confessent Christ. Et c'est écrit, donc, vous avez revêtu Christ. Galates 3 et le verset 27. Une autre façon d'exprimer notre immersion en Jésus est de dire que nous avons revêtu Christ. Ça, c'est sa justice imputée par Dieu. Dans le langage original, cette phrase a l'idée de revêtir en costume. Ainsi, nous nous revêtons de Jésus comme notre identité lorsque l'Esprit de Dieu se révèle en nous. D'abord, baptisé avec lui dans sa mort, et ensuite, l'ayant revêtu par son Esprit. En fait, la façon dont nous nous habillons a un impact réel sur notre manière de penser, d'agir. La façon dont nous nous habillons a un impact réel sur notre apparence aux yeux des autres. Et nous ne nous habillons pas comme des mendiants dans des chiffons sales et déchirés de nos efforts à obéir la loi. Isaïe a déjà dit que toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Ça, c'est en Ésaïe 64, verset 6. Donc, notre tenue appropriée pour chaque jour est quoi? Christ. Et les gens autour de nous doivent savoir que nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous ne nous revêtons plus de ces chiffons déchirés et sales de notre obéissance de la loi, mais de Christ. Et nous avons cette conscience d'être toujours parés de Jésus. Oh, quelle joie! Alors, dans les versets 28 et 29, pour conclure, notre égalité, donc, parce que ce que je viens de décrire s'applique à chacun des élus de Dieu. C'est écrit, il n'y a, verset 28, plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes quoi? Un en Jésus-Christ. Ça c'est le titre, un en Jésus-Christ, uni en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Lorsque Dieu a promis une postérité à Abraham, comme nous avons déjà vu dans le verset 16 de ce chapitre, il ne s'agit pas de plusieurs comme haute postérité, mais comme il s'agissait d'une seule, et de ta, ou bien à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc il n'y a ni juif ni grec. Ça aussi, c'était une révolution étonnante, surtout pour les juifs qui avaient l'habitude de penser que c'est eux, en tant que peuple, qui avaient la priorité. Mais jusqu'à ce que Christ vienne, il œuvrait et préservait cette nation pour faire venir son Fils, comme il l'avait promis. Mais maintenant que Christ est venu, cette distinction entre juif et grec est abolie. Lorsque nous sommes en Jésus, il n'y a ni juif ni grec. Cela ne veut pas dire que nous perdons notre identité en tant que race. Nous restons toujours ce que nous sommes, mais il s'agit ici en ce qui concerne notre salut. En Christ, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. La ligne de démarcation entre juifs et grecs n'est pas la seule ligne de démarcation effacée en ce qui concerne notre position devant Dieu en Jésus. Toute ligne de démarcation est effacée maintenant que Jésus est notre identité. Nous sommes ce que nous sommes en lui. Cela est plus important que toute identité intérieure que nous possédions. C'est pourquoi c'est la folie pour nous de croire que nous sommes d'une race supérieure, culture supérieure. Non. En Christ, tout cela disparaît. Nous sommes un en Jésus-Christ. Et malheureusement, il y a certains qui essayent de tracer toujours des lignes séparées et ils tracent des lignes entre leur dénomination, certains tracent des lignes entre les races, certains tracent des lignes entre les nations, certains tracent des lignes entre les partis politiques et certains tracent des lignes entre différentes classes d'hommes. Mais ici, nous voyons qu'il n'y a pas de distinction comme cela en Christ. Oh, quelle bénédiction de savoir cette unité en Christ. Selon la promesse de Dieu qu'il a faite à Abraham, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, sa véritable postérité. Il y en a aujourd'hui qui veulent nous faire croire que c'est des Juifs qui sont toujours le peuple préféré de Dieu. Mais ce n'est plus le cas. Lorsque Christ est venu, les Juifs l'ont renoncé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, sont sous la condamnation. Mais s'il y en a qui sont élus de Dieu, comme des païens, ceux-là sont héritiers de Dieu selon la promesse faite à Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham, en toi, dans ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Cela ne veut pas dire de bénir Israël, mais sa postérité, c'est-à-dire Christ, tous ceux qui sont élus dans toutes les nations de la terre, du monde, sont bénis en lui. Quelle unité, donc, d'être en Christ. Alors que le Seigneur bénisse sa parole que nous venons d'entendre. Amen.